Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est 9h40 et c'est le début de l'instant média.
Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits.
95 000 téléspectateurs.
Nos abonnements augmentent grâce au numérique.
On fout des sondages.
La vie trépidante d'un groupe qui possède un opérateur télécom et ses fers, une radio, des chaînes de télévision déclinant les marques BFM et RMC, des journaux, l'Express, Libération entre autres et des sites d'info. Trépidante parce que les chaînes RMC Sport vont perdre la compétition phare du football européen, la Ligue des Champions, seront-elles encore viables? Trépidante parce que l'Express s'est vu infliger une véritable saignée, comment va-t-il se relancer? Trépidante parce que BFM TV risque de voir ses concurrentes lui passer devant sur les bouton de votre télécommande, va-t-elle garder son leadership? Trépidante enfin parce qu'au lieu de devenir une chaîne d'info internationale façon CNN, BFM TV a choisi de conquérir les régions avec des télés près de chez vous. Est-ce le début d'une guerre de la publicité locale? Voilà le programme.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et au mot guerre, il a décroché un petit sourire. Bonjour Alain Veil.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur France Inter. Vous êtes directeur général d'Altis Europe, vous êtes président de SFR, vous êtes président de Next Télé Radio, ça c'était RMC et BFM, et vous êtes le nouveau propriétaire de l'Express. Je vous propose de commencer par l'actualité du sport à la télévision. RMC Sport diffuse la Ligue des Champions et le foot anglais. 5 chaînes ont été créées pour cela.
C'est parti, c'est reparti même pour Footissime.
Bienvenue dans Le Vestiaire, l'émission de nos consultants qui partagent avec vous chaque semaine leurs souvenirs, leurs anecdotes et leurs secrets de vestiaire. On accueille tout de suite Emmanuel Petit. Bonsoir Manu.
Vous êtes le premier invité de Comme Jamais, ça nous touche beaucoup. Merci. La nouvelle émission d'RMC Sport, et on voulait vous rencontrer parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment vous entendre sur le football, votre vie.
Alain Veil, vous aviez acquis pour près d'1 milliard d'euros la diffusion de la Ligue des Champions, l'occasion de créer un bouquet de chaînes. À l'avenir, la Ligue des Champions sera diffusée sur Canal+. Ma question, elle est très simple. Que vont devenir vos émissions de foot, les équipes que vous avez recrutées, à cet égard? Et vos chaînes peuvent-elles être viables sans le football, sans ce football-là qui draine les abonnements?
Bien sûr, parce qu'on peut pas créer une chaîne uniquement liée à des droits, parce que des droits, par définition, on peut les perdre, et puis il faut accepter l'idée de les perdre, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on serait prêt à les payer à n'importe quel prix si la concurrence était infernale. Donc la situation actuelle...
Vous n'avez pas souhaité...
Voilà, on nous avait dit qu'on avait payé très cher il y a 3 ans, et puis finalement, c'est parti pour un prix plus élevé.
Encore plus élevé.
Alors ensuite, nous, on est très serein. RMC Sport... est un succès dans le sens où les chaînes ont contribué à un moment où la situation était plus difficile pour SFR à relancer l'entreprise qui va aujourd'hui très très bien. Donc on est dans un contexte différent. Le marché des droits sportifs évolue aussi. Aujourd'hui, on est aussi plus dans une logique de partage. On nous avait dit qu'on avait perdu la première ligue anglaise, et puis finalement, on la co-diffuse avec Canal. Donc là, la Champions League, c'est pour dans plus d'un an, dans 18 mois, puisqu'on diffusera la saison prochaine encore. Je ne sais pas ce qui se passera après, peut-être qu'on diffusera une partie des matchs, la totalité des matchs, ou pas du tout, je ne sais pas, mais ça reste très ouvert. Donc on n'est pas du tout dans une situation tendue actuellement sur le sujet.
Ah bon, est-ce que vos chaînes sont viables avec des sports mineurs, entre guillemets? C'est-à-dire, est-ce que vous allez repartir par exemple à l'assaut du basket français que vous diffusez? Est-ce que la NBA, le basket américain par exemple, qui est sur beIN Sport, qui arrive en fin de droit, vous intéresse? Est-ce qu'on peut faire vivre ces chaînes sans le football?
La logique de la rentabilité de Notion Sport est totalement différente de celle de pure player comme Canal+ ou beIN Sport. Nous, c'est dans un ensemble que la chaîne ou nos chaînes de sport sont analysées. L'ensemble, c'est celui d'SFR. Et la logique, c'est de voir comment les chaînes peuvent contribuer à recruter des abonnés et à faire évoluer l'image de SFR. De ce point de vue-là, RMC Sport est un succès. Aujourd'hui, la chaîne intrinsèquement...
Un succès à 1 milliard d'euros, hein, ça a coûté cher quand même.
Oui,
hein.
Mais les résultats d'SFR sont les meilleurs résultats de son histoire. Et c'était impensable il y a 2 ans. Donc quand ça marche très bien, il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut regarder toutes les décisions qui ont été prises depuis 24 mois. Et il y a notamment celle-là. Donc on est satisfait en maintenant... En même temps, si maintenant on peut réduire un peu le coût des sports, c'est pas une mauvaise nouvelle. Donc on n'est pas paniqué par rapport à la situation concernant la Champions League. Encore une fois, c'est dans 18 mois. Et nos abonnés, de toute façon, auront accès à la Champions League, puisque SFR diffuse tous les opérateurs. Et puis, moi, je suis confiant sur le fait qu'RMC peut-être diffusera aussi
la Champions League. Du football français, par exemple.
Mais peut-être du football français aussi.
En se mettant d'accord avec Mediapro, le groupe espagnol qui a racheté les droits pour l'année prochaine.
On est serein et on contrôle la situation.
D'accord, en dépensant un peu moins d'argent.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alain Veil, PDG d'Altice France, invité de l'instant M. Cet été, vous avez finalisé le rachat à titre personnel de 51% de L'Express, le magazine fondé en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud. Altice en conserve 49%. Au mois d'octobre, grève et banderole. Veil massacre L'Express. Il vous a été vivement reproché finalement d'aller au-delà des suppressions d'emplois et du plan de départ qui avait été annoncé. Une véritable saignée, c'est ce qui a été dit par vos salariés en grève.
Il y a quelques collaborateurs qui ont du mal à imaginer le futur, la nécessité de transformer, d'innover, d'investir, d'aller vers le numérique. Il y en a qui sont figés sur des positions anciennes et qui sont dans une position finalement très dangereuse pour l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas c'est mon objectif, d'avoir une contribution très positive pour l'Express. L'enjeu, c'est de sauver l'Express. On a un très beau projet. On démarre le 16 janvier prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. La nouvelle formule, c'est plus qu'une nouvelle formule, c'est une transformation, c'est un nouveau contenu, un contenu recentré, une qualité sans doute.
Il fallait faire partir autant de gens pour cela ? Parce que vous avez un plan de départ qui a permis de faire partir beaucoup de gens et vous avez voulu aller encore au-delà. C'est ça qui a provoqué cette onde de choc.
Oui, mais finalement, on a trouvé un accord raisonnable qui convenait aux deux parties. Le plan de départ a été signé par les syndicats, ce qui n'est pas toujours le cas. Et finalement, dans des délais assez rapides, on a eu une concertation permanente, une transparence totale. Moi, j'essaye d'expliquer le projet dans sa totalité à tous les collaborateurs. C'est normal que dans cette période de transformation, il y ait des tensions, mais je veux pas du tout passer comme quelqu'un qui massacre l'Express. Je suis quelqu'un qui essaye de sauver le journal. Et il y a d'autres investissements qui sont peut-être plus certains que d'investir dans la presse. Donc parfois, je peux aussi mal vivre le fait qu'on puisse me reprocher de vouloir faire quelque chose pour sauver l'Express. Et j'ai aussi un track record qui peut laisser penser que la qualité de l'Express pourra être améliorée et que l'Express pourra peut-être être sauvé, même si c'est pas acquis. Mais la formule qu'on lance avec Clément Delpirou et Eric Scholl, qui est le patron de la rédaction depuis quelques semaines, est une formule très ambitieuse, dont je suis très fier. Vous pourrez le voir dans quelques jours.
Donc transformation radicale, hein, parce que depuis la création de l'Instant M, on a multiplié les émissions sur les nouvelles formules de l'Express ou de l'Obs, par exemple, voilà. Pendant que Le Point, par exemple, ne bouge pas, ne déroge pas à sa ligne, à ses règles et à sa présentation. Transformation radicale.
On est les premiers à se transformer. Mais les autres se transformeront aussi, c'est indispensable. Personne ne gagne de l'argent dans la presse hebdomadaire en France. Donc il faut se transformer, c'est la période qui veut ça. Et aujourd'hui, moi je n'ai pas du tout l'impression d'être dans le secteur...
Alors transformer comment
exactement ? Je n'ai pas l'impression aujourd'hui d'investir dans le secteur de la presse papier déclinante. J'ai la conviction d'investir dans le marché du contenu payant. Et dans le contenu payant, il y a le divertissement, il y a Netflix, les gens sont habitués maintenant. Il y a Disney qui va arriver, il y a Hulu qui va arriver. Mmh. Et puis il y a l'information. Dans l'information, il y a des grandes marques mondiales comme le New York Times, comme le Washington Post qui peuvent nous inspirer, comme The Economist aussi. Il y a des marques locales ou nationales comme Le Monde, Le Figaro qui investissent aussi dans le numérique. Eh bien, on est sur ce marché-là. Évidemment, le papier, on le maintient parce qu'il est très utile dans cet ensemble à assurer l'équilibre. Mais l'enjeu, c'est par la qualité du contenu de recruter des nouveaux abonnés, des abonnés plus jeunes. Moi, je suis très confiant sur le fait que le public jeune a envie aussi de s'informer, a pas envie de subir des fake news. Des abonnés numériques. C'est vrai que les jeunes sont plutôt numériques. Et avec une innovation forte, c'est que l'Express rentre sur le marché, si je puis dire, du son, du podcast, puisque le journal pourra aussi être écouté, qui est une tendance qui se développe très fort. Vous êtes dans votre voiture, vous faites votre playlist, vous choisissez les articles qui vous intéressent.
De radio qui nous parle.
Exactement. Donc, je suis très confiant dans ce projet-là aussi.
Voilà. Alors, est-ce qu'il va rester des pages culture à l'Express ? Parce que ça aussi, vive émotion.
Vive émotion de certains quand on veut bouger, faire changer les choses. Mais 1953, c'est la date de création de l'Express. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de culture au moment de la création. Mmh. Et puis le temps, l'époque, a fait que ça a eu du sens avec le développement de l'audiovisuel, du cinéma, de la radio.
Ça n'en a plus d'investir.
Aujourd'hui, il y a le digital, il y a un monde concurrentiel qui est complètement différent.
Donc il y a une offre pléthorique sur la culture, c'est ça que vous êtes en train de dire,
qui existe ailleurs aussi.
C'est ça.
Et vouloir être bon partout, c'est difficile.
C'est ça.
Nous, on veut se concentrer sur l'ADN du journal, qui est plutôt l'international, la politique, l'économie, les idées, la technologie. Il y aura aussi de la culture quand il y a un sujet national ou international qui tourne autour d'un film, d'un livre, d'une entreprise culturelle. On en parlera, mais toutes les semaines, avoir le rendez-vous sur les films à voir ou à ne pas
voir. Pour vous, c'est plus une nécessité.
Il y en a d'autres qui le font.
Dans la presse.
Et donc, vouloir tout faire, c'est pas, je pense, rendre service au projet et à la relance du journal.
Des signatures connues, renommées, des éditorialistes connus, renommés vont rejoindre l'Express.
Oui, alors on les annoncera à la semaine prochaine, ou même à la fin de la semaine, cette semaine-ci. On veut que le journal soit impeccable sur le plan de la qualité. Le journal veut faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes sur le plan de la ligne éditoriale, c'est-à-dire avoir des articles qui vont inspirer, qui vont faire réfléchir, qui seront assez pédagogiques sur le monde qui bouge, parce qu'il faut beaucoup de valeur ajoutée pour que les gens soient prêts à payer. Donc la qualité éditoriale s'améliore considérablement. Il faut se poser la question pour chaque article, est-ce qu'il mérite d'être payé ? Parce que c'est ça la réalité. Et si vous regardez un journal aujourd'hui, même s'il est de bonne qualité, finalement il y a beaucoup d'informations que vous avez déjà entendues à la radio ou vues à la télévision, parce que c'est aussi un secteur qui a beaucoup évolué. Donc il faut tenir compte de tout ça pour que les gens aient envie de s'abonner.
Alors, évolution de la télévision, justement après les lancements de BFM Paris et de BFM Lyon, vous signez un accord avec un groupe de télévision locale, le réseau VIA.
Bonsoir à tous, bienvenue sur Télé Nantes et sur le plateau de votre première quotidienne.
Bonsoir à tous et permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une excellente année 2020 de la part de toute l'équipe de Via Mirabel.
Pour que ce grand site d'Occitanie n'ait plus aucun secret pour toi, rendez-vous dans le Mac des grands sites sur Via Occitanie.
Alain Veil, vous vous implantez également à Lille. À terme, vous entendez couvrir tout le territoire français. Est-ce que dans chaque grande ville de France, il y aura un BFM local ?
Les choses se feront par étapes. Ça sera en fonction des opportunités. C'est un projet passionnant parce que la télé locale a jamais été un grand succès en France, au-delà du service public de France 3
qui existe depuis longtemps
et qui est bien installé. Je crois que là, on a un projet qui fonctionne bien. À Lyon, en quelques semaines, BFM Lyon est véritablement un succès qui atteint un niveau d'audience comparable aux autres chaînes d'information. Donc ça fonctionne. La chaîne est vraiment sur l'information permanente et locale, donc elle apporte vraiment quelque chose de différent. C'est passionnant de travailler sur ce projet.
C'est votre façon à vous de combattre les GAFA et les grandes plateformes américaines qui ne pensent pas local, qui pensent planétaire.
Exactement. C'est une façon originale d'aller sur les marchés qu'on connaît mieux. C'est pour ça que moi j'essaye de réfléchir avec la presse quotidienne régionale pour voir si on peut pas faire des choses ensemble. Finalement, plutôt que se combattre sur le marché de la publicité locale, est-ce que la presse, la télé ont pas des choses ensemble à faire pour affronter les GAFA?
Plutôt que de se combattre sur la publicité locale, allez leur faire très très mal à l'Inveil. Presse quotidienne régionale.
Pas du tout. D'abord,
Le marché de la publicité locale, il n'est pas extensible à loisir. Ce sont des petits annonceurs. Il y en a beaucoup, mais ce sont des petits annonceurs. Vous allez leur faire mal. Vous allez aspirer une partie de la communication qui va soit dans l'affichage local, soit dans la presse quotidienne régionale.
D'abord, moi je crois qu'il y a de la place pour tous. Le marché publicitaire en France est très sous-investi par rapport à tous les autres pays européens. On a une culture plus nationale que locale. Donc moi, je crois qu'il peut y avoir des transferts aussi de budgets nationaux vers des budgets locaux. En tant qu'annonceur SFR, on aimerait avoir plus d'outils localement parce qu'on a des problématiques par région qui sont différentes.
Pour s'adresser,
et finalement, on a des médias qui sont
Bretons,
relativement
aux
faibles dans chaque région parce qu'ils ont une pénétration qui est insuffisante.
Donc vous manquez de support régionaux.
Donc je ne crois pas du tout qu'on s'opposera à la presse quotidienne régionale. Je pense qu'on peut faire des choses avec eux. Eux, ce sont des spécialistes de l'information locale. Nous sommes des spécialistes de l'information nationale à la télévision. Ensemble, je pense qu'on peut faire des choses. Donc c'est des sujets auxquels on réfléchit actuellement. Mais en tout cas, c'est un projet passionnant parce qu'il prend. Et si nous, on peut contribuer à faire que la télé locale en France privée s'installe enfin, j'en serais très content.
Et alors, dans le même temps, la réforme de l'audiovisuel qui est en route va autoriser par décret, c'est-à-dire avant le vote de la loi, des chaînes nationales comme la vôtre, à proposer de la publicité ciblée. Et parmi la publicité ciblée, il y a la publicité géolocalisée. Ça aussi, c'est un coup dur pour la presse locale.
Non, pas du tout. Parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Mmh. Soit on continue à s'opposer entre nous, entre médias nationaux, médias locaux, médias papier, médias audiovisuels. Soit on prend un peu de hauteur et on dit comment on fait pour s'organiser face aux GAFA. Si le combat il reste entre les acteurs locaux, la victoire, c'est pour Google. Le premier acteur de la publicité locale en France, c'est Google.
Absolument.
Donc si on fait que se combattre entre nous et qu'on laisse le tapis rouge à Google,
faire
le grand gagnant de la réforme, c'est Google.
Aux auditeurs, c'est-à-dire quand on est concessionnaire auto à Coulommiers, sans vouloir faire référence à personne, ou fabricant de piscine à Pau, pour l'instant, on a tendance soit à faire de la pub sur le journal local, soit à mettre de l'argent dans son référencement sur Google. C'est-à-dire que quand on tape le mot-clé piscine, il faut qu'on ressorte tout en haut de la liste. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer.
Aujourd'hui, le premier acteur de la publicité locale, c'est déjà Google.
C'est déjà Google.
Donc si on ne permet pas à tous les médias français d'aller attaquer Google, ou en tout cas d'avoir des moyens comparables face à Google, ben on les condamne à moyen terme. Même s'il faut évidemment réfléchir à l'avenir de la presse quotidienne régionale, parce que moi je suis personnellement convaincu en tant que citoyen qu'elle a un rôle très important. Elle doit réussir son transfert vers le digital, comme l'Express, c'est le même sujet. Il faut qu'elle ait un contenu que les gens aient envie de payer et envie de lire le matin sur leur mobile. Moi, je crois que c'est tout à fait possible. La presse quotidienne régionale a une mission essentielle pour la démocratie locale, pour défendre les intérêts des habitants d'une ville. Et c'est une façon, d'ailleurs, de les pousser à s'abonner que de les aider à faire que la vie au quotidien soit meilleure dans leur ville,
par exemple. Alors, pour la protéger, justement, la presse quotidienne régionale, la réforme va autoriser des chaînes nationales à faire de la pub spécifique à La Rochelle, à Pau ou à Brest, mais elle interdit ces publicités de citer l'adresse, justement, des commerçants ou des lieux dans lesquels on est invité à se rendre. Vous trouvez que c'est une limitation qui va favoriser, justement, Google ?
Nous, ce qu'on explique au gouvernement, il y a Franck Riester qui a une écoute par rapport à ça. Et il a aussi beaucoup de contraintes, mais malheureusement, ces contraintes, elles sont entre
ministre.
Acteurs franco-français. Donc, finalement, ça pénalise les acteurs français. Et ça aide Google, c'est qu'il n'est plus acceptable en 2020 qu'on nous refuse des choses qu'on accepte pour Google ou pour Facebook. C'est ça le principe. La loi, elle doit permettre à tous les acteurs français d'avoir les mêmes moyens que Google et Facebook. Alors soit on réduit les possibilités de Google et Facebook et ils ont les mêmes contraintes que nous, mais si Google peut faire des choses, comment justifier que nous n'ayons pas, nous, acteurs français, le droit de le faire ?
Ça y est, on a une date, le 9 août prochain, France 4 et France O, deux chaînes du service public vont basculer sur Internet, volonté du gouvernement, libérer leurs canaux sur la TNT, le numéro 14, le numéro 19. Quand on parle de canaux sur la TNT, on parle de boutons sur la télécommande. Vous, chaîne d'info la plus regardée de France, je parle de BFM TV, vous êtes numéro 15. LCI et France TV Info sont tout au bout de la TNT et elles plaident pour un regroupement des chaînes d'info autour de vous. Là, vous êtes numéro 15, tout le monde aimerait bien être avant vous, numéro 14. Est-ce que vous seriez d'accord pour ce regroupement thématique des quatre chaînes d'info de la TNT, à condition qu'on vous donne le 14, à condition que vous restiez le premier sur la télécommande ?
D'abord, c'est un peu suspect qu'on parle de regroupement thématique uniquement pour les chaînes d'information. Parce que finalement, si c'était une bonne idée...
Non, c'est proposé pour l'ensemble des chaînes.
Mais ça sera impossible, et c'est pas ce que j'ai compris. Mais à ce moment-là, il y aurait au moins une logique. Mais je ne crois pas que ce soit possible et envisageable. C'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore et on ne s'y retrouvera pas. La numérotation, c'est aussi le reflet de l'histoire. À un moment, il y a deux groupes, Canal+ et Next Radio, qui ont cru à l'information gratuite et ont démarré en 2005.
Et ont investi.
Et puis il y a des groupes qui n'y ont pas cru et qui ont démarré plus tardivement. Finalement, est-ce qu'il est justifié que ces chaînes-là se rapprochent de nous et viennent prendre une partie de notre fonds de commerce, une partie de notre audience, naturellement, pour nous affaiblir ? Moi, je trouve pas que ça soit légitime. Ou alors, il faut
même
que...
si on vous donne le canal 14, même si vous restez le premier sur la télécommande.
Au-delà de mes intérêts particuliers, quoi, ceux de mon entreprise, aujourd'hui, il y a trois chaînes d'information privées. Il y en a deux qui perdent de l'argent depuis leur création. LCI, c'est 25 ans de perte. iTélé, CNews, c'est 20 ans de perte. Nous, on gagne de l'argent. Si demain, on regroupe toutes les chaînes, notre audience va diminuer logiquement. Et on perdra de l'argent aussi. Et je ne crois pas que ce soit la mission du régulateur d'affaiblir définitivement la totalité des acteurs. Moi, je trouve qu'il y a une règle qui est simple. C'est comme dans les courses à pied. Il y a un candidat qui renonce. On change les maillots. Tout le monde avance d'un numéro. Voilà, ça au moins c'est clair. Donc on prend le 14, CNews prend le 15, c'est pas mal pour eux.
Et puis tous les suivants
les autres avancent. Et là au moins, tout le monde est traité sur un pied d'égalité.
Merci beaucoup Alain Veil d'être venu sur France Inter ce matin. C'est la fin de l'émission.